L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 230e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
C'est le 230e numéro, c'est la face. Ah, c'est donc l'actualité des deux semaines écoulées. On va faire un petit worst of. Le top 20 des pires mots de passe en France, ce qui, selon le journaliste de Numérama, donne envie de s'arracher les cheveux. Nous allons donc nous arracher les cheveux avec lui.
Oui, mais j'ai un problème technique, c'est qu'il n'y a plus de connexion Internet sur l'ordinateur ici, donc du coup, je ne peux pas revoir mes sources en même temps.
C'est une émission absolument offline.
Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux... Tu as les articles ouverts sur ton ordinateur
là, ou pas ? J'ai le premier article. Donc, nous avons le pire mot de passe qui a été donc décompté 2 168 406 fois. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Suivi, à ne pas confondre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Loin derrière le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 3, le fameux Azerty. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0. Alors en 6e, c'est assez étonnant d'ailleurs, Tiffany.
Oui, il y a un Nicolas dans la liste, j'ai vu aussi.
C'est pourtant, à ma connaissance, ça ne fait pas partie des prénoms les plus donnés. Mais bon, pourquoi pas. Marseille. Marseille est bien placé aussi. Donc, on rappelle les règles usuelles de création de mots de passe. Normalement, il doit être difficile à deviner, mais facile à retenir pour la personne qui en est le légitime détenteur. Alors, souvent, maintenant, quand vous devez créer un mot de passe sur un service en ligne, quel qu'il soit, le fait est que vous avez une politique qui est imposée. Alors, souvent, c'est très agaçant puisque... on oublie de vous dire quelle est la politique de mot de passe avant.
Oui, c'est avant d'avoir
essayé. Quand c'est bien fait, on vous dit votre mot de passe doit avoir telle longueur, 8, 10, 12 caractères, autant de caractères accentués, autant de caractères spéciaux. Lesquels, tant qu'à faire, parce que des fois, c'est des caractères spéciaux, mais pas tous.
Genre pas les accents.
Oui, par exemple.
Mais conseil, ne mettez pas d'accent dans un mot de passe, c'est quand même une mauvaise idée, ça.
Donc évitez donc les mots de passe triviaux, évitez les mots de passe sous forme de chiffres, typiquement c'est à proscrire, variez les caractères, essayez de... Alors, il y a un petit débat sur est-ce qu'il faut faire des phrases de passe ou pas, parce que donc les phrases c'est forcément constitué de mots, sauf que les mots c'est sensible aux attaques par dictionnaire, donc le fait de concaténer des mots à un moment, je dirais en mélangeant les mots, à un moment, on va finir par le trouver. Le fait est d'avoir quelque chose de suffisamment long et complexe pour qu'une attaque par brute force, en essayant toutes les combinaisons possibles et inimaginables, et c'est comme si vous tentez plein de mots de passe et que au final ça passe, sauf que c'est un ordinateur, ça va beaucoup plus vite. C'est pour ça également que les. En général, quand vous essayez un mot de passe 3 fois de suite, 3, 4, 5, 6 fois de suite, vous êtes obligé de réinitialiser votre mot de passe. Voilà, c'est pour éviter notamment les attaques par brute force. Sauf si quelqu'un récupère des mots de passe sous forme, ce qu'on appelle haché. Alors, ce n'est pas vraiment du chiffrement, mais en gros, on leur applique une fonction mathématique
non, à un sens unique.
Non bijective, on pourrait dire.
Voilà,
Mathématiciens. En tout cas, retrouver la réciproque, c'est compliqué à partir du résultat final. Et le problème, c'est souvent sous cette forme que les mots de passe en fait, sont révélés, sont revendus sur Internet. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut faire des attaques, en général, qu'on appelle par brute force.
Et pour rappel, un gros problème sur les mots de passe, on en a déjà parlé dans cette émission, un gros problème, c'est que le mot de passe, par définition, ça marche pas. Parce que le mot de passe est censé être mémorisable par un humain, mais difficile à deviner pour une machine.
C'est le côté paradoxal.
Ouais. Or, justement, en général, un humain qui produit un mot de passe, l'humain est mauvais et va produire un mot de passe qui va être facile à trouver par la machine et difficile à retenir par l'humain. Ce qui est à force d'essayer d'appliquer les règles de sécurité. Donc la seule vraie solution pour gérer les mots de passe sur Internet, ça reste un outil de gestion de mots de passe. Il y en a plein, il y en a intégré à Firefox, à Chrome. Enfin, si vous utilisez Chrome, tant pis pour vous, mais voilà, il y en a intégré dans les navigateurs. Il y a des logiciels comme KeePass. Il y a des tas de logiciels qui soient libres ou propriétaires qui gèrent les mots de passe correctement et qui font la synchronisation entre différentes machines. Donc, plutôt que de vous acharner à essayer de mémoriser des mots de passe que vous ne pouvez pas mémoriser, et du coup, ben, vous retrouvez à utiliser 3 ou 4 mots de passe identiques, enfin, et juste avoir au mieux un panel de 4-5 mots de passe à essayer entre différents sites, non. La solution, c'est ne retenez plus aucun mot de passe, ou plutôt n'en retenez qu'un seul, le mot de passe de votre portefeuille de mots de passe.
À ce propos, le Royaume-Uni va donc décider d'interdire l'utilisation de mots de passe par défaut sur les équipements qui sont vendus dans le pays.
Mais bon sang, mais en voilà une idée qu'elle est révolutionnaire. C'est pas comme si ça faisait longtemps qu'on avait régulièrement des appareils vendus avec login admin, mot de passe, password.
Ah, c'est le grand classique.
C'est le grand classique, hein.
Comme les cartes PIN des téléphones portables qui ont pour mot de passe par défaut soit 1, 2, 3, 4, soit 0, 0, 0, 0.
Tout à fait. Puis bon, il n'y a jamais eu d'école, d'université ou autre où les imprimantes ont les mots de passe par défaut et où on peut aller récupérer le contenu de tout ce qui est imprimé. Il n'y a jamais eu de réseau où on peut prendre le contrôle de tout le réseau puisque le mot de passe c'est admin. Enfin, c'est le mot de passe c'est celui par défaut. Il n'y a jamais eu d'attaque même dans des entreprises à cause de ce genre de choses. Ça se saurait s'il y avait des vrais problèmes de sécurité à cause de ça. Donc il était temps que au moins un pays s'attaque à ce souci. Bon, le fait que ce soit un pays qui ait quitté l'Europe, je ne sais pas si ça nous sert ou si ça nous dessert. Mais au moins, voilà, là, il y a quelque chose qui est tenté.
On continue les nouvelles Internet avec Mozilla qui annonce la fin de Lockwise, Pierre.
Tout à fait, on parlait de mot de passe. Lockwise, c'est justement une tentative de Mozilla. Alors, il n'y a pas grand monde qui va pleurer sur la tombe de ce projet-là. Lockwise, c'était une tentative de Mozilla de créer un gestionnaire de mots de passe pour autre chose que juste le navigateur web. Donc c'était créer un gestionnaire de mots de passe qui s'applique aussi aux autres applications que vous pouvez avoir sur Android, par exemple. Clairement, ils n'avaient pas des masses d'utilisateurs et c'est pas leur marché, c'est pas leur domaine, c'est pas ce sur quoi ils sont censés travailler. Donc, censés travailler, je veux pas donner des ordres à la fondation Mozilla, évidemment, mais c'est pas leur taf principal.
Par contre, je pourrais quand même te répondre que quel est l'endroit où on utilise le plus des mots de passe ?
C'est dans un navigateur Internet. Et justement, ils ont un gestionnaire de mots de passe intégré à Firefox, avec un système de synchronisation avec Firefox mobile. Ils ont ce qu'il faut. Donc justement, Lockwise, ça faisait un peu doublon. Lockwise, c'était vraiment pour la gestion des mots de passe en dehors du navigateur web. Donc, qu'ils éliminent ce besoin-là, ça me choque pas tant que ça, surtout que Mozilla, la fondation Mozilla n'a pas tant de ressources de développement que ça actuellement. On en reparlera peut-être dans une prochaine émission, justement, j'ai un sujet en préparation concernant les mots de passe.
On va parler de nos trois amis Apple, Google et Facebook qui pourraient être donc obligés d'établir de l'interopérabilité quant à leur système de messagerie instantanée. Il y aurait donc un protocole qui existerait, qui aurait été même utilisé par Google, XMPP.
Ah mais non, mais qui est encore utilisé par Google même.
Mais qui est fermé.
Alors, est-ce que tu pourrais juste, parce que vu que j'ai pas l'article, j'ai pas appris mes sources par cœur, faut pas déconner, je crois que c'est Commission européenne qui envisage ça ?
C'est justement ce que j'allais dire, Pierre. En plus, c'est en anglais, Pierre, quand même.
Écoute, pendant que tu traduis, petit rappel technique. Donc, le monde du libre n'a pas attendu l'existence des GAFAM pour créer des protocoles interopérables pour la messagerie instantanée, notamment. Au début des années 2000, le protocole XMPP, aussi connu sous le nom Jabber, a été créé. Donc XML Message Passing Protocol pour ceux qui veulent la signification. Et donc c'est un système de chat entièrement décentralisé. Donc qui permet à marcel@tartempion.fr, donc tartempion.fr qui a un serveur Jabber, de parler avec toto@talk.google.com. Donc un service fermé de Google, mais qui pouvait parler sans aucune restriction avec quelqu'un.
C'est bien la Commission européenne.
C'est la Commission européenne.
Ça ne s'appliquera pas au Royaume-Uni.
Ça ne s'appliquera pas au Royaume-Uni, mais s'ils sont obligés de le mettre en place, peut-être qu'ils vont se sentir obligés.
Ils vont peut-être pas faire une exception pour le Royaume-Uni. Ce serait bête quand même.
Ils vont peut-être pas faire non plus une exception pour le. Je ne sais pas s'ils vont se permettre. Je ne sais pas s'ils auront le culot de faire une passerelle, mais uniquement en Europe. C'est vrai qu'ils en sont capables.
En discriminant les adresses IP.
Ouais, ils en sont capables. Ben, Royaume-Uni, puis États-Unis et autres pays du monde. Autres pays unis ou pas unis. Mais toujours est-il que le principe de l'interopérabilité là-dessus, mais il serait temps, quoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans mon cas, j'ai deux applications de communication instantanée seulement, donc du XMPP et j'ai cédé là-dessus, j'ai du Telegram pour discuter avec certains amis parce que, ben, justement, les serveurs XMPP, tous les serveurs majeurs comme Google ou Facebook, à un moment c'était du XMPP, mais c'était pas interopérable. Ces serveurs-là sont tous fermés maintenant.
Je dois avouer avoir sur mon téléphone une application de messagerie instantanée possédée par Facebook.
Voilà, donc le fameux WhatsApp ou Facebook Messenger.
Facebook Messenger, faut pas déconner non plus. Hein,
voilà. Toujours est-il que tout
WhatsApp, il n'y a pas Facebook dedans, ça passe mieux.
Ouais, ça passe mieux, mais c'est Facebook.
J'ai quand même quelques contacts qui ont migré sur Signal suite à ça. Bon, quelques-uns. Voilà, suite à la fameuse changement de politique de confidentialité des données imposé par Facebook via WhatsApp.
On dit Meta maintenant. Attention, Meta, changer de nom. Et toujours est-il que l'interopérabilité, c'était possible avant. Pourquoi ça ne le serait plus aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, c'est même en interne, Google utilise encore XMPP. Facebook, ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent encore XMPP en interne. Donc, ils auraient juste à rouvrir l'accès à l'extérieur au final. C'est pas impossible. C'est juste.
Il faudrait qu'ils aient quand même les administrateurs système adéquats.
Mais ils les ont déjà, vu qu'ils gèrent déjà les serveurs pour eux en interne.
Je pense qu'il y avait un léger sarcasme que tu n'as volontairement omis.
Ah oui, je l'ai volontairement omis, parce que là, on sait que c'est du foutage de gueule ce qu'ils font, mais quand même, à ce point-là, ça serait triste.
On va parler de nos grandes entreprises, surtout américaines, et on va parler des télécommandes.
Oh, les télécommandes. Les télécommandes.
Parce que si vous avez un téléviseur connecté ou une box Android,
oui, parce que
qu'est-ce que vous voyez apparaître comme bouton? Parce qu'avant, une télécommande, il y avait les boutons 1, 2, 3, 4, 5, choisir la source, choisir les programmes, plus ou moins, le volume.
Ah, parce qu'il y a des boutons maintenant pour choisir les chaînes.
En 2021, oui, il y a encore, oui. Mais il y a également des boutons pour choisir directement des applications. Bon, ce qui est d'ailleurs une belle source d'obsolescence programmée. Enfin, imaginez, le logo change, les applications changent, et du coup, ça change tout.
Imaginez, votre télé n'est pas mise à jour, l'application change. Oups.
C'est vrai que mettre boulette. À jour une télécommande, c'est quand même un petit peu plus compliqué.
Mettre à jour une télécommande ou une télévision connectée qui n'est plus maintenue par son fabricant.
Là,
parce que
ce n'est pas donc, la Commission européenne, c'est une mission de l'Assemblée nationale donc, qui a désigné deux co-rapporteurs, co-rapporteuses plutôt, d'ailleurs la députée Sophie Mett, députée Modem, et Michel Victory, députée PS, oui, il en reste encore. Donc c'est un travail d'analyse qui doit s'achever en janvier. Plutôt intéressant. On verra ce qu'il en sortira.
Toujours est-il qu'effectivement, il y a un vrai problème aussi. C'est si demain, parce que tu dis il y a l'obsolescence de la télécommande, tu n'as pas parlé du principal problème que moi, en tout cas, je vois à ça.
Oui, de la télévision avec, oui.
L'obsolescence de la télévision, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, imagine, un nouveau service se lance. Appelons-le Salto. Pour ne pas par parler exemple. D'un service qui est déjà quasiment mort-né, vu la situation globalement.
Ce nouveau service. Il est même mort en couche, en fait. Hein.
Ouais, non, mais celui-là, c'est calamiteux. Enfin, de toute façon,
on a vu l'échec en temps réel, si tu veux.
Mais justement, l'un des paramètres pour un tel échec, c'est la force de l'habitude. Mais il n'y a pas que ça, en fait, dans la force de l'habitude. Il y a aussi le fait que demain, toutes les télés ont un bouton Netflix, un concurrent veut apparaître. Ben ouais, mais le concurrent, il sera plus compliqué d'accès.
Et oui.
Parce qu'il faudra, dans ce cas, non pas appuyer sur le gros bouton rouge Netflix de la télécommande, mais il faudra aller sur le bouton Home, puis glisser, rouler pour aller sur, peut-être, je sais pas, navigateur web, puis aller saisir une adresse. C'est beaucoup plus chiant.
Ceci dit, dans la pratique, le fait que ce soit Netflix qui soit sur les télécommandes des principales télé connectées ou des services de box, ça n'a pas empêché l'émergence de concurrents tels que Amazon ou Disney. Donc, il y avait déjà des puissances de frappe commerciales au préalable. On est d'accord.
Voilà,
c'est pas la PME du coin qui se lance.
Oui, voilà, tu viens de mettre une sacrée barre à l'entrée quand même. S'il faut s'appeler Disney, et en plus, la façon qu'a eu Disney de rentrer sur le marché.
Bon, il rentre avec un certain catalogue et certaines exclusivités.
Et en ayant supprimé du catalogue des concurrents leurs films. Attention, on joue pas dans la même cour, quoi. Dans ce cas, il y aura que les grands studios américains qui pourront se permettre de lancer des plateformes. C'est bien. C'est le plan Marshall n'avait pas complètement réussi, mais là c'est bon, c'est terminé. La culture non américaine ne doit plus exister.
C'est que, ouais, non, c'est que la segmentation comme ça, il se tire un peu une balle dans le pied parce que c'est relégitimiser le piratage. Parce que en termes de musique, voilà, vous avez bon, je ne vais pas dire les principaux services, mais il y en a deux principaux. Vous payez un abonnement de 5, 10, 15 en fonction des promos de l'offre que vous prenez, et puis bon, vous avez comme une offre qui est assez complète. En termes de films, c'est vrai que de séries, l'émergence, c'est-à-dire des deux principaux acteurs actuels faisait que ça avait quand même beaucoup baissé l'intérêt de téléchargement, je dirais, illégal d'œuvres soumises au copyright ou aux droits d'auteur. Et au final, ça va faire comme le foot, c'est-à-dire s'il faut 60 euros par mois pour avoir toute l'offre, bah, les gens, on se remet à télécharger des torrents.
Bah, au bout d'un moment, oui, c'est, s'il n'y a que ça qui marche. C'est tout, c'est triste, hein, mais...
On poursuit les actualités après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Iris Baby, Bright Way Don't Match Away. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'était Iris Baby, Bright Way on March Away. Vous écoutez l'écho des nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Pierre, on va continuer sur les nouvelles Internet. On va parler un petit peu technique. Une nouvelle, moi j'étais passé à côté, mais c'est quand même une bombe dans le monde du réseau. Les adresses IP en 127 seront bientôt routables sur Internet. Vous n'avez peut-être pas compris l'impact, mais vous parlez ça à n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances en technique réseau, ça pique.
Ouais, ça, pique voilà, fort. Ça peut piquer très fort. Ben, pour donner, comment dire? Déjà, revenons au commencement. Qu'est-ce qu'une adresse sur Internet? On va parler uniquement d'IPv4, donc les adresses historiques sur Internet, donc qui sont sous la forme de 4 nombres, de 0 à 255, et il y en a 4 à la suite. Par exemple, là, le poste sur lequel je suis, si quelqu'un pouvait venir le refaire marcher la connexion Internet, ça serait vachement mieux pour les émissions. Il a une adresse IP publique, donc je ne vais pas la dire. Mais il a aussi, en fait, l'ordinateur a plusieurs adresses, il en a une par carte réseau, et l'ordinateur a aussi sa propre adresse locale.
Moi, j'ai une adresse privée, j'ai un 192.168.1.49.
Voilà, ça c'est une adresse IPv4. Une adresse IPv6, c'est beaucoup plus long, et depuis 20 ans, c'est ce qui doit remplacer demain IPv4. Ça serait vachement bien que le demain arrive, mais du coup, comme le demain n'arrive pas et que...
Parce qu'on a commencé nos études d'ingénieur il y a maintenant un peu plus de 15 ans et IPv4, c'est bientôt fini.
Exactement, et ça continue. Mais en fait, du coup, au plus c'est bientôt fini...
Ça en finit pas de terminer.
Voilà, comme le mur est là, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est au pied du mur? Eh ben, on pousse le mur. Comme ça, le mur, il recule un peu. Jusqu'à arriver sur le gros mur suivant. Donc là, pour l'instant, ils ont continué à pousser. Et donc là, ils ont eu une belle idée. Donc dans IPv4, on a défini certaines catégories d'adresses IP spécifiques. Par exemple, là, Alexandre a parlé d'adresses IP de réseau local. Donc 192, 168, je ne sais plus combien. Tout ce qui est en 192.168, ce sont des adresses IP non routables sur Internet.
C'est-à-dire que, prenez l'exemple d'un téléphone d'entreprise... Oh, peut-être que les plus jeunes vont peut-être pas comprendre. Mais voilà, prenez un numéro court en 4 chiffres. Ah, c'est l'équivalent, s'il vous plaît.
Voilà,
c'est un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler le poste d'un collègue dans l'entreprise, mais ce numéro-là, on ne peut pas vous appeler depuis l'extérieur. Il faut un numéro externe.
Tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, 192, 168, voilà, celui-là, il est défini depuis très longtemps. Il y en a un autre qui est très particulier aussi, c'est le 127. Point ce que vous voulez. Celui-là, le 127 point ce que vous voulez, ne peut correspondre que à votre ordinateur. C'est votre ordinateur pour se parler à lui-même. Et en fait, quand deux applications communiquent, elles peuvent très bien communiquer à travers cette adresse réseau-là. C'est une adresse réseau, vraiment, il n'y a rien qui passe. Même si vos cartes réseau sont toutes débranchées, ben, vos applications, elles ont l'impression, entre guillemets, de parler entre elles sur du réseau, mais c'est ce qu'on appelle le réseau local, enfin, le réseau interne de la machine, la loopback, ça s'appelle. La boucle locale, je crois, en français. Et donc, ben jusque demain, il n'y a pas de problème. Toutes les adresses sont 127 points, ce que vous voulez. On voit l'adresse, on sait, oui, c'est une adresse locale. Ça ne passe pas par Internet. Par exemple, les gens qui s'amusent à faire tourner plein de machines virtuelles sur leur ordinateur, ça, ils utilisent régulièrement ce genre d'astuces pour que les applications dans les machines parlent entre elles. Ça fonctionne très bien, c'est fait pour. Eh bien, le problème, c'est que comme on n'a plus assez d'adresses IPv4 parce qu'on en a 2 puissance 32, moins toutes les règles d'allocation qui font qu'on en perd au passage...
Si c'est 4 milliards. Hein.
Oui, et c'est pas assez. C'est
bah, pas tu peux assez. Dire que 2 puissance 32, ça parle peut-être pas.
Oui, oui, ça fait 4 milliards. Et c'est pas du tout assez. Du coup, quoi
alors
qu'on fait...
les adresses IPv6, on a plusieurs millions, je sais plus, plusieurs milliards par atome de molécule d'eau sur Terre.
Un truc comme ça, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, voilà.
Beaucoup.
Beaucoup, beaucoup.
Et du coup, ben en fait, il y en a 4 milliards de 4 milliards de 4 milliards de 4 milliards des adresses IPv6. Donc, il y en a largement assez. Mais du coup, donc, comment qu'on fait pour l'IPv4? Et bien, du coup, on dit, ah, en fait, ce bloc d'adresse IP-là, en fait, désormais, il est routable. Alors, ils ont déjà fait ça. Hein. Avant, c'est pas le premier qui tente, il me semble. Mais ils ont déjà repris des blocs d'entreprise, des trucs internes chelous qui avaient été attribués par certains organismes. Ils ont redistribué ça. Il y a déjà eu pas mal de travail pour essayer de récupérer des miettes à droite à gauche. Là, celle-là de miettes, c'est vrai qu'elle est intéressante puisque 127 points, tout ce que vous voulez, ça va représenter 1/256 de 4 milliards. Et je suis fatigué, donc je vais pas savoir le calculer de tête, c'est pas grave. Ça représente quand même 0,5% des adresses IPv4 possibles. Tout de suite, le gain est intéressant. Et du coup, ben, les ingénieurs des normes d'Internet, plutôt que de dire « ben non, mais faut arrêter, faut passer à IPv6, arrêter de repousser l'échéance », eh ben non, on va augmenter
le... Les 15 millions, Pierre.
Merci. On va augmenter le nombre d'adresses disponibles de 15 millions, parce que comme ça, on va tenir X mois de plus.
Sachant qu'en plus, désormais, si vous avez une connexion domestique, ADSL ou fibre, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas une adresse IP publique à vous tout seul. Elle est partagée.
Elle est partagée en plus. Mais donc là où ça va être encore plus drôle, du coup, avec cette histoire de 127, parce que il y a des conséquences techniques, elles sont connues, mais à ce point-là de chaos, ça va être très très drôle. Ça fait depuis la création d'IPv4 que les adresses en 127.étoile sont spécifiques à la machine.
Ça, c'est connu. C'est-à-dire, vous parlez à un informaticien ou un ingénieur réseau, un technicien réseau, vous dites 127.
Il connaît.
Il pense tout de suite adresse locale. C'est du réflexe.
Du coup, déjà, on va avoir plein de problèmes qui vont apparaître avec ça. On va avoir un problème humain. C'est-à-dire que tous ceux à qui on va dire d'un coup 127.2.machin, ils vont dire c'est une adresse locale ça. Non, c'est plus une adresse locale, c'est une adresse routable sur Internet. Donc déjà, il va y avoir les humains informés. Un humain, ça se forme, passe encore. Le problème, c'est que l'adresse, du jour au lendemain, lorsqu'un ordinateur va recevoir un paquet à destination de 127.2.3.4, par exemple, il va plus pouvoir se dire « Ah, mais ça, c'est à moi ». Il n'aura plus le droit de se dire « Cette adresse-là, c'est à moi ». Il va devoir dire « Ah, ben, j'envoie la demande à un tel qui est responsable de cette adresse ». Et ça va être un gros chaos, puisqu'il faudra mettre à jour les systèmes d'exploitation et toutes les applications réseau qui dépendent de ce genre de raisonnement. Et là, il va y avoir un sacré bordel. Mais un vrai gros bordel. Là, par exemple, quand j'ai essayé de faire marcher la connexion Internet de ce poste, qui ne marche plus, clairement, dans les réglages de Firefox, Firefox a rappelé « Attention, les adresses en 127.000/8, donc toutes les adresses commençant par 127, ne sont pas routées et ne passent pas par le proxy ». Il y avait un petit rappel. Donc même les applications devront être mises à jour. Donc ça va être un chaos total pour les personnes qui ont des machines qui ne peuvent pas être mises à jour ou qui ne se mettent pas à jour correctement ou qui ne sont plus maintenues par leur fabricant. Des smart TV, des smartphones qui ont plus d'un an ou même plus de 6 mois dans certains cas. Il y a plein de trucs.
Ça fait du monde.
Ça fait du monde. Et d'un coup, il y aura 0,5% d'Internet
qui ne leur seront pas accessibles.
Puis là, c'est ça. Ça va être magique.
Alors si c'est attribué à des usages plutôt domestiques, ça va. Mais si c'est attribué à des fournisseurs de services,
ça va être attribué à des fournisseurs de services. Clairement, ceux qui sont en demande d'adresse IPv4, c'est pas Monsieur et Madame Michu, c'est les Google, c'est
pas
Amazon.
Monsieur et Madame Michu, mais c'est quand même Monsieur et Madame Michu à travers les fournisseurs d'accès Internet.
Ça va pas être un fournisseur d'accès Internet qui va choper ça. C'est très peu probable. Ça va plutôt être des grosses entreprises qui ont besoin beaucoup d'adresses IP et qui surtout sont prêtes à payer très cher. Donc ça va être rigolo, c'est un beau chaos qui est en cours de préparation. J'ai pas le statut du papier en tête, vu que j'ai pas de connexion pour aller vérifier. Il me semble que c'est en cours de proposition, mais ça pourrait bien passer, quoi.
Pour ceux qu'on n'a pas encore perdu, une nouvelle amusante,
qui
fait plutôt rire jaune, Microsoft
Edge, belle,
donc leur navigateur internet, inclut, si vous passez par un site de paiement, il vous propose un service d'un prestataire externe qui veut vous proposer un paiement en plusieurs fois. Directement inclus dans le navigateur.
C'est ça, le paiement en plusieurs fois, je crois que c'est sans frais.
Ce n'est pas du piratage, c'est vraiment une fonctionnalité inclue dans Microsoft Edge.
C'est ça. Alors déjà, ça ne va pas être disponible en France, je crois, parce que de mémoire, les codes financiers divers et variés que nous avons...
Le code monétaire et financier.
Ouais, c'est le code monétaire et financier, celui-là ?
Je crois bien.
Parce que là,
c'est le code de la consommation.
Je pense que c'est plutôt le code de la consommation.
On laissera les juristes nous répondre.
Voilà, si un juriste sait, vous connaissez peut-être le numéro de téléphone de l'émission. De toute façon, si un juriste nous écoute, il aurait déjà dû nous engueuler à plusieurs reprises, je crois. Donc, toujours est-il que Microsoft a décidé d'intégrer une fonctionnalité révolutionnaire désormais. Donc, Edge, quand votre navigateur web va voir, tiens, mais c'est un formulaire de paiement. Eh ben, il va proposer automatiquement une petite picouse d'incitation à la consommation en vous disant « Eh, est-ce que vous voulez payer en 3 fois sans frais ?» Profitez de nos offres, des offres de Edge avec le prestataire je sais plus quoi de Microsoft. C'est inimaginable. Je pensais pas qu'on pouvait tomber aussi bas. Là, c'est un record. Alors, attention, on tape sur Microsoft. Je peux taper aussi très bien sur... Brave, le navigateur web Brave, qui est un dérivé de Chrome lui aussi, qui a décidé d'intégrer un portefeuille de crypto-monnaies dans le navigateur web.
C'est pas beaucoup plus glorieux.
Bref, utilisez des logiciels libres, utilisez Firefox.
Voilà.
Je rappelle que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. Et justement, arrive une pause musicale.
Oh, la transition !
Tu vois ça ? Ouf. Nous allons donc écouter Zero Project, Dirty Old Man. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com.
En vrai, c'est parce qu'il doit réviser sa prononciation.
Dragging your carcass all around. Soulless old man is on you now. Your hair gets yellow from the smoke. Your dreams are dirty, you provoke. Dirty hands are touching you. You close your eyes, but it's still true. Rent for seamless.
C'était Zero Project, Dirty Old Man. Vous écoutez les codes et nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. On va parler logiciel libre, bien évidemment.
J'avais dit qu'il s'était entraîné pour la prononciation.
Le land allemand du Schleswig-Holstein, avec mes excuses aux auditeurs germanistes, va migrer, donc c'est un land du nord de l'Allemagne, l'extrémité nord de l'Allemagne, va migrer 25 000 postes vers LibreOffice, puis vers la distribution Linux que tu vas préciser laquelle.
De mémoire, je ne vais pas y arriver. De
mémoire, tu ne vas pas y arriver, Pierre.
Il y en a trop.
Tu bossais largement mieux tes dossiers que ça.
Oui, ben, j'ai retenu le nombre de postes et le lander, mais... la distribution Linux, je n'avais pas précisé. Ben, pendant que tu revérifies l'article pour voir, mais je ne suis même pas sûr que ça avait été précisé. Hein.
C'est to be replaced by GNU Linux, mais sans autre précision.
Voilà, parce que c'est la Document Foundation, donc la fondation qui gère le développement de LibreOffice, qui a fait l'annonce. Donc, eux sont plus intéressés par le côté logiciel libre de manière générale et LibreOffice en particulier que par le choix de telle ou telle distribution Linux, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Et il est probable que de toute façon le choix de la distribution Linux n'ait pas été arrêté pour le moment. Et donc ben, c'est un état entier en Allemagne, donc l'Allemagne est une république fédérale, hein, mais en termes de taille c'est comme si toute une région en France basculait sur du LibreOffice, ce qui à ma connaissance n'est jamais arrivé, hein, jusqu'à maintenant. Et donc, ben, c'est une grande avancée. Donc, ça fait penser un petit peu à ce qui s'était passé avec Munich, même si, bon, ça a plutôt
ça
mal
terminé
fini,
en
bout
de
hein,
de...
avec.
Surtout qu'un Land allemand, c'est vraiment des vraies compétences, une vraie administration. Alors que voilà, conseil régional, pas dire que c'est une boîte à subvention,
ah oui, oui,
mais
oui.
Bon.
Ils ont un peu de boulot à côté quoi. Normalement, mais oui, effectivement, là c'est un vrai état, effectivement. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça devrait illustrer. LibreOffice, ça marche. Ça devrait sûrement permettre aussi d'injecter de l'argent dans le développement de LibreOffice, ce qui est toujours positif, hein, puisque c'est un logiciel libre, du coup, qui pourra avancer.
Donner aussi un exemple de migration.
Tout à fait. Et alors, je ne sais pas du tout comment se passera leur migration à Linux, mais dans le cas de Munich, ils avaient développé une distribution Linux à part la Limux, qui était dérivée de Debian, de mémoire, pour permettre justement d'automatiser certaines tâches d'installation et simplifier l'administration d'un parc de machines. Donc peut-être qu'il y aura ce genre de travail, parce que vous m'entendrez pas souvent dire du bien de Microsoft et de Windows, mais il y a une chose que Windows gère beaucoup mieux que Linux, c'est l'enfermement des utilisateurs dans un parc de machines géré par un administrateur dictateur. C'est ce qu'on appelle Active Directory sous Windows. En entreprise, ça marche très bien et ça fait des dégâts. C'est-à-dire qu'on a des postes qui sont complètement captifs et verrouillés. Linux, la philosophie même du système n'a jamais été comme ça, et du coup, les développeurs sont pas très enclins à développer ce genre de fonctionnalité. Pour le dire très poliment. C'est faisable, mais il n'y a rien d'aussi simple et intégré et aussi.
Active Directory, ça plaît beaucoup, et les GPO, ça plaît beaucoup au DSI.
Oui, ça leur plaît, je dis pas le contraire. Voilà. Mais du coup, à suivre. Peut-être qu'ils développeront des systèmes, peut-être qu'ils demanderont et qu'ils feront développer des systèmes équivalents, peut-être qu'il y aura du travail autour de Samba, ce genre de choses, qui sait. Il y a plein de choses qui peuvent être développées autour de ça et. Avoir un État qui a le budget d'un État pour aider là-dessus, c'est bien, il était temps.
On parlait de Microsoft, et Microsoft qui est donc visé par une plainte de Nextcloud visant donc un abus de position dominante, donc une plainte auprès des tribunaux de l'Union européenne, donc pour l'intégration donc de logiciels permettant d'utiliser OneDrive directement dans Windows, hein, donc là. Spécialité de Microsoft, intégrer ses propres services directement dans leur système d'exploitation, même si Google s'y est mis aussi avec sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour smartphones.
Ah oui, attention, ils le font tous, mais c'est pas une raison pour que ce soit légal, ou ni pour que ce soit...
Alors j'ai dit que c'était une tradition, j'ai dit que Microsoft est quand même celui qui a lancé le mouvement, hein, avec l'intégration d'Internet Explorer dans Windows.
Tout à fait.
C'est ce qui leur a valu d'ailleurs le procès antitrust à l'époque.
Le grand procès antitrust des années 90, avant qu'ils financent la présidentielle américaine.
Mais il n'y a pas de raison que Microsoft ne continue pas, donc à nouveau une plainte. Donc
de l'entreprise qui...
devant les autorités donc américaines, européennes, européennes, allemandes.
Et c'est une entreprise allemande, donc.
Et également, donc, ils ont également prévu de le faire devant le régulateur français.
Tout à fait. Donc, c'est l'entreprise qui chapeaute, on va dire, le développement du logiciel libre Nextcloud. Nextcloud, donc, c'est un système que vous pouvez installer chez vous sur un serveur. C'est conçu pour tourner sur des petites machines qui vous permet d'avoir, dans une interface web, de la gestion de documents avec un drive comme ce qu'on peut avoir avec Google Drive, Dropbox ou justement Microsoft OneDrive. Mais pour ce genre de solution, face à Microsoft, c'est assez difficile puisque... Là, je viens de chercher en vitesse pendant 30 secondes sur le poste de travail qu'il y a ici, qui est un Windows 7, donc qui n'a toujours pas de connexion Internet. Et ce Windows 7, j'ai pas trouvé de traces de OneDrive. Par contre, effectivement, de toutes les fois où j'ai vu un Windows 8, 10 et 11, OneDrive, c'est bien mis en avant, quoi. C'est... Tu démarres la machine, tu as une icône avec OneDrive lancée dans la barre des tâches, il me semble. Tu l'as intégré directement dans l'exploitateur de fichiers à un endroit ou deux, tu as des traces de OneDrive. C'est... On te le met bien, bien en avant.
Pierre, moi, il n'y a aucune machine sur laquelle j'ai droit d'administrateur qui possède un Windows.
Voilà, c'est un autre problème. Moi, je prends les machines des copains. Donc, OneDrive est assez mis en avant par Microsoft. Donc, effectivement, c'est clairement... Dropbox en était déjà plein, mais n'était pas allé jusqu'à aller devant les tribunaux, il me semble. Ou alors, s'ils vont devant les tribunaux, ce sera des tribunaux de droit... ce sera du droit américain. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ils le font devant les tribunaux européens qui n'auront pas nécessairement la même volonté de plaire à Microsoft. Parce que effectivement, devant des tribunaux américains, une entreprise européenne qui attaque Microsoft, je crois que il y aura peut-être un
patriotisme léger économique.
Un léger biais, effectivement, qu'on pourrait appeler patriotisme économique. Tout à fait. C'est
oui, mais tu sais bien que les États-Unis, ils exportent du libéralisme, mais
Ils l'importent surtout pas.
Bah, c'est-à-dire que voilà, ils le gardent pas pour eux.
C'est ça. Donc, à suivre, j'espère que ça va marcher. Le problème, c'est que ce genre de procédure prend beaucoup de temps et le mal a déjà été fait et continue d'être fait, puisque ben, aujourd'hui, Windows 11 continue de se diffuser tranquillou avec l'intégration OneDrive. Donc, à suivre. Et en tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas Nextcloud, je vous invite, si vous avez besoin d'un cloud de chez vous, je vous invite à essayer cette solution. Qui est vraiment assez cool et assez simple d'installation pour peu que vous sachiez installer un serveur avec juste une application web en PHP. Donc le prérequis est présent, mais c'est quand même assez faible et il me semble qu'il y a des offres pour utiliser des installations de Nextcloud en ligne.
L'éditeur de jeux Epic Games propose la création d'un store d'applications. Donc, universel, non, qui regrouperait l'App Store d'Apple, le Play Store de Google, le magasin d'applications de Microsoft, je ne sais pas comment il s'appelle.
Le Windows Store.
Le Windows Store,
je crois. Oui, ou le Microsoft Store maintenant. Il change les noms aussi, il s'amuse. Parce que c'est trop compliqué. Et donc, oui, parce que, effectivement, alors, leur but. Le but d'un tel projet, d'un tel idéal, hein, puisque c'est idéal d'avoir des stores d'applications fermés comme ça, donc le but d'un tel projet, attention, ce n'est pas d'avoir l'obligation que chaque application soit disponible sur toutes les plateformes, mais c'est quelque chose qui est assez bête, et pourtant c'est l'une des clés de voûte du monopole d'Android et d'Apple sur les smartphones, et surtout de la captivité de leurs propres utilisateurs. C'est qu'aujourd'hui vous avez, mettons, un téléphone Android, et vous avez déjà payé pour 200-300 € d'application. Certains le font, ça peut aller relativement vite. Vous avez 200-300 € d'application dans votre App Store, et vous voulez passer sur la plateforme concurrente. Parce que il y a le 20e capteur d'appareil photo, c'est trop génial, ça permet de faire des photos en 5G. Je sais pas, hein, on va
alors
donner
que t'as mieux, alors que t'as mieux pour moins cher, c'est pour renouveler ton téléphone.
Aussi, c'est dans l'autre sens, quoi, en général, ça, mais bon. On va pas comparer les prix des salopards. Donc, toujours est-il que si on veut changer, eh ben, on doit racheter toutes les applications. Puisque, ben oui, c'est pas le même store, c'est pas le même compte, il n'y a rien de commun. Donc, on n'est même pas sur simplement le fait que l'application soit disponible sur l'autre plateforme, ce qui est déjà un prérequis assez costaud. Mais en plus, tout ce que vous aviez, que ce soit l'application ou même dans certains cas les achats dans l'application, eh ben, vous perdez tout. Et pour un éditeur de jeux vidéo en particulier, hein, pour un éditeur de jeux mobiles gratuit avec des grosses pincettes autour de gratuit, comme Epic Games, c'est un certain problème.
Quoique, il refacture plusieurs fois le même produit, au final.
Oui, mais ça crée quand même une barrière à l'utilisateur. L'utilisateur ne va pas rester dans son expérience de jeu. Ça, en fait,
c'est vrai que c'est que tu achètes. Le concept, c'est pas que tu achètes ton jeu. Enfin, nous, on est des vieux.
On est des papis.
On installe notre jeu sur notre ordinateur, sur notre console et on joue. Alors que là, du coup, c'est gratuit. Venez, c'est gratuit. Et puis,
au fur et à mesure. On met la biscotte dans le lecteur.
On achète pour avoir tel personnage, telle fonctionnalité, telle map.
Voilà. Et justement. Pour un éditeur comme Epic Games, ben ça crée une frustration dans l'expérience de jeu des gens. Et du coup, ben ils veulent que cette barrière disparaisse. Alors, il y en a pour un bout de temps, hein. Franchement, pour ce genre de choses arrive. Là, ils vont devoir aller devant des tribunaux américains, déjà qu'ils sont face à Apple. C'est pas demain la veille.
Parlons un peu Windows sur ARM, voudrait Pierre. Oui. Donc, ARM qui est donc une autre architecture processeur, hein, comme les Intel X64 qui sont les plus connus. Hein, le PowerPC qui équipait autrefois les Mac. Donc Microsoft avait promis donc de fournir avec Windows 10, donc la version maintenant précédente de Windows, une émulation X64. Donc en gros, les processeurs des PC.
C'est ça.
Qu'un ARM, un Windows sur un ARM puisse faire fonctionner des applications prévues pour PC. Sauf que ça va être fourni avec Windows 11, mais finalement pas avec Windows 10.
C'est ça, ils ont dit ah tiens, on vous avait dit qu'on allait le faire. Ouais, on va pas le faire. On va le mettre sur la nouvelle version finalement. Hein. Bisous. Je trouve cette méthode assez rigolote quand même de la part de Microsoft. Et alors après, je crois comprendre que. En fait, ils ont promis un truc qu'ils n'avaient pas le droit de faire parce que Intel n'était pas d'accord. C'est Intel qui leur a dit « Non, mais vous n'avez pas le droit de faire de l'émulation de X86, hein, on a des brevets. » Mais du coup, Microsoft n'a jamais dit « Ah ben, on s'est pris une fessée par Intel, on n'a pas le droit de le faire. » Et puis là, ben, du coup, maintenant, c'est « Ah ben, on verra plus tard. Hein. On verra sur la prochaine version de Windows. » Et accessoirement, ben, les machines ARM, il serait quand même un petit peu temps que ça arrive aussi sur autre chose que juste les derniers Mac. Que les derniers Mac, effectivement, ils sont plutôt bons matériellement. Il n'y a pas photo. Après, quand on a le portefeuille, enfin le trésor de guerre d'Apple, forcément, on peut acheter des grosses exclusivités sur les chaînes de fabrication. Ça aide. Et toujours est-il que donc pour 2023, a priori, on devrait commencer à voir, mais 2023, c'est loin, quoi. On devrait commencer peut-être à voir des machines ARM satisfaisantes qui tournent sous Windows. Pendant ce temps-là, sous Linux, on a des machines ARM à bas coût, à basse performance, qui tournent et qui sont disponibles. Hein. Si vous cherchez un petit peu, vous pouvez tomber sur des Pinebook ou autres. Mais on tombe sur les gros travers de ce type de plateforme alternative, c'est que les applications qui sont pas de cette plateforme-là, elles tournent plus lentement. Et puis la plateforme ARM est quand même conçue plutôt pour la basse consommation et la basse vitesse. Là, Microsoft, ça fait quand même un bout de temps qu'ils auraient peut-être pu pousser à l'arrivée d'alternatives dans ce monde-là, mais c'est pas leur genre. Je comprends pas trop pourquoi ils jouent à ça, parce que là, en ce moment, du coup, ils se prennent publiquement une fessée par Apple.
On rappelle que Apple en 2017, c'était 250 milliards de dollars de trésorerie.
Oui, oui.
De sous, de cash.
De cash, oui, oui.
C'est-à-dire que le budget de l'État français, c'est 300 milliards.
Oui, oui.
Pour donner des ordres d'idées.
Oui, oui, oui. C'est mignon, quoi, comme trésor de guerre. Là.
Alors, Pierre, tu vas nous faire l'écho des développeurs et des états d'âme des développeurs et des conflits au sein des équipes du langage de programmation Rust, sur lequel tu fondes beaucoup d'espoir. Le langage, hein, pas le conflit.
Oui, oui. Alors là, ça va être vraiment chaud parce que du coup, j'ai pas accès à tous les éléments autour du conflit et j'avoue que retenir ce genre de truc, ça m'agace un petit peu. Mais il y a un litige actuellement, un litige, c'est quand même relativement gros, sur des projets de collaboration assez importants. Alors, je suis en train de chercher une formulation qui me fasse pas passer pour un qu'il faut pas passer. C'est un peu compliqué là. Le sujet est un peu sensible. Les communautés ont de plus en plus souvent, mis en place un code of conduct, un code de bonne conduite.
Ce qui est quand même plutôt de bonne aloi quand on veut réguler les relations dans un groupe.
C'est ça, ce qui peut être de bonne aloi. Tout dépend
de
ce qui est écrit dedans.
Quand on est entre gens civilisés et que ça prend une certaine taille, évidemment, si c'est une dizaine de personnes, ça peut être informel. Et quand on est une communauté structurée, c'est normal qu'on ait un petit règlement intérieur, un petit code de conduite.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et là, donc, il y a un code de conduite au sein de la communauté Rust pour les contributions au projet. Jusque-là, tout va bien, avec une équipe de modération en charge de faire respecter ce code de conduite, notamment dans les commentaires sur les contributions de code, etc. etc. Et toute l'équipe de modération a démissionné collectivement. Parce que dans la communauté Rust, il y a des élus. Mais pas au sens élection, il y a des gens au-dessus du lot qui sont les core contributors, donc les contributeurs du cœur du projet.
Des gens qui sont plus égaux que les autres.
Des gens qui sont plus égaux que les autres, des gens qui sont plus rémunérés que les autres pour travailler sur Rust en général. Et ces gens-là, du coup, s'assoient sur les règles de modération,
si
a priori.
Si tu mets des règles et que tu dis que certains sont au-dessus, forcément, ça ne va pas passer.
Ben oui, forcément, ça ne va pas passer. Et là, on retombe sur un travers que je dénonce assez régulièrement, c'est la difficulté de gérer un projet libre quand on a une entreprise, ou là, dans le cas de Rust, un panel d'entreprises qui finance des développeurs et qui crée un modèle à deux vitesses et un modèle avec deux statuts. Il y a le développeur et le développeur avec un D majuscule. Parce que il y a le développeur avec un salaire majuscule.
On a la difficulté avec un projet libre qui est dirigé par une seule entreprise. Voilà, effectivement, les risques sont assez évidents. Et on peut se dire que quand c'est plusieurs entreprises, quand il n'y en a pas une qui prend la main, bon, comme Debian, Debian, il y a des développeurs de différentes entreprises qui sont payés pour y contribuer. Et il y a un code de conduite, il y a une constitution, il y a un manifeste Debian très respecté avec l'élection d'un leader chaque année qui se fait de manière assez consensuelle. Donc ça marche aussi. Dans certains, il y a des projets où ça marche.
Et là, dans le cas de Rust, pour le coup, cas, là, personne est au-dessus de ça, c'est un peu pété la gueule. Donc, après, justement, merci Alexandre d'avoir parlé de la constitution du projet Debian, parce que le projet Debian est très souvent critiqué pour sa lourdeur bureaucratique, parce que réellement, c'est la constitution, la démocratie dans tous les sens. Ça marche, les mecs. Arrêtez de vous friter la gueule et d'essayer d'inventer des nouvelles façons de faire. On a un modèle qui marche, il est carré. Il est réglo, il fonctionne. C'est Debian, ça marche depuis 30 ans. Mais non, il faut réinventer la roue. Il faut réinventer des codes de conduite en mettant des modèles. Ben ouais, mais en fait, du coup, ces problèmes-là, Debian ne les a pas eus.
La dégeekalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter The Liquid Kitchen Graveyard. Vous écoutez les codes GNU sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Oui, Pierre. Merci, Pierre.
Désolé. In the throat, these four rooms, bright and iron and withered fumes. Far below these sinful means, gold has flown through loosened streams.
C'était The Liquid Kitchen Graveyard. Vous écoutez le code GNU sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation qui sera assez rapide ce soir. Flatpak ne serait pas le futur des applications sous Linux, Pierre ?
Tout à fait. Pardon ?
Rapidement.
Rapidement. On en a déjà parlé de Flatpak précédemment dans cette émission, donc je vais juste refaire une brève réintroduction du sujet. Donc, les applications Linux sont traditionnellement distribués par les distributions. Le monde est bien fait, le vocabulaire fonctionne nickel. Les distributions prennent des logiciels libres, en général, et en font des petits paquets, des programmes, des binaires, et vous les téléchargez depuis la distribution, vous l'installez sur votre machine et paf, vous avez le programme installé. Ce modèle fonctionne extrêmement bien sur un ensemble de paramètres. Vous avez une déduplication des éléments. Si 5 logiciels ont besoin de manipuler des fichiers JPEG, des images de format JPEG, eh bien, ces 5 programmes vont tous utiliser le même bout de code pour lire des fichiers JPEG, et donc ce sera un seul fichier sur votre disque dur qui contiendra la gestion des fichiers JPEG.
C'est une raison pour laquelle, notamment, les distributions Linux sont quand même moins gourmands en ressources système, c'est moins lourd, ça va plus vite qu'un Windows.
C'est l'un des gros avantages. A contrario, ce modèle-là a un inconvénient majeur, a plusieurs inconvénients majeurs, c'est quand on se place du point de vue du développeur logiciel qui ne veut pas rentrer dans le schéma des distributions. Parce que les distributions Linux choisissent ce qu'elles font. Elles peuvent choisir de paramétrer le logiciel légèrement différemment.
Ou l'utilisateur qui veut avoir la dernière version. Parce que forcément, si tu veux une version plus récente, le problème c'est que tu dois mettre à jour ce même composant. Sauf que du coup, tu casses la compatibilité avec les autres logiciels.
Tu peux casser.
Éventuellement, non, mais à supposer qu'un logiciel utilise un composant plus récent, tu peux casser la compatibilité avec les autres logiciels.
Voilà, et là du coup, on a un problème, et on a aussi le problème des logiciels propriétaires qui sont difficiles à diffuser de cette façon. Et donc, la solution qui est proposée ces derniers temps, c'est Flatpak, qui consiste à dire, eh bien, on va distribuer des applications, on va les mettre dans des petites boîtes, et on va mettre tout ce dont l'application a besoin dans la petite boîte avec elle. On se retrouve à télécharger des mini-distributions Linux, pour les applications. Alors, le modèle jusque-là, donc déjà, ça fait un peu suspect, parce qu'on se dit, mais attends, mon application, elle pèse 5 mégaoctets, ce qui est déjà beaucoup, je trouve, et je vais télécharger une distribution de 400 mégaoctets pour faire tourner l'application, c'est pas possible. Mais le projet Flatpak, du coup, a prévu une notion de framework, c'est-à-dire un bloc déterminé dont les applications peuvent dépendre. Donc il y a des blocs KDE, des blocs GNOME, etc.
Jusque là, il peut y avoir de la mutualisation de blocs.
Il y a une mutualisation partielle. Mais le diable se cache dans les détails. La mutualisation partielle, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où on tombe sur un gros problème. C'est, Alexandre, si je puis me permettre une petite critique, tu viens de faire du FUD, juste avant, dans ton intervention.
Qu'est-ce que j'ai fait, Pierre?
Tu viens de dire, oui, mais quand on met à jour, ça peut casser la compatibilité.
Oui, bah, c'est-à-dire, si tu le faisais, le fonctionnement d'une distribution fait que non, mais potentiellement...
Potentiellement, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est pas un bug quand le développeur casse la compatibilité tous les deux jours? Est-ce que c'est pas à lui de se sortir les doigts du rectum, ou de procéder à une extraction digitale ou rectale, et d'arrêter de tout casser tous les deux jours?
Enfin, c'était pas forcément le sens de mes propos, c'est qu'une distribution, ça évolue, tous les logiciels sont mis à jour en même temps. Et si tu as une distribution, là, qui est un an et demi, tu veux pas faire une mise à jour complète de ta distribution, tu viens de logiciel plus récent, potentiellement t'es embêté.
Ah, dans ce sens-là.
Voilà, c'est plutôt
oui,
ça que je veux dire.
Oui, dans ce sens-là. Mais toujours est-il que la crainte de casser la compatibilité, c'est vraiment une crainte, et ben, ça aboutit à, et ben, mon application, elle va dépendre de 18 trucs, et je dépends de ces versions précisément. Et donc, il y a eu un biais qui a fait pas mal parler de lui, d'un développeur, qui a donné son avis en disant, mais regardez, j'ai installé une application, enfin, j'ai installé 40 applications, et ça m'a consommé je ne sais plus combien de gigaoctets d'espace sur son disque, pour rien, au final, pour des éléments qu'il avait déjà sur sa distribution, mais qui sont dupliqués. Avec tout le cauchemar des mises à jour de sécurité, le cauchemar de la maintenance de ces différents blocs, la bande passante consommée...
Le cauchemar d'un ordinateur sous Windows.
On s'en approche, et c'est même pire que le format sous Windows. Et donc, est-ce que Flatpak, finalement, c'est vraiment l'avenir? Alors, sur ce modèle-là, en particulier avec ce qu'en font certaines distributions comme Fedora actuellement, effectivement, le modèle est plutôt, clairement, en train de partir dans le mur. Donc, à suivre, moi, je pense que Flatpak, ça a un intérêt pour les applications distribuées en dehors des distributions. Pour, mettons, une application propriétaire, pour une application très spécifique. Mais, effectivement, pour l'application commune, l'application libre en particulier, je pense que c'est une voie de garage.
Merci Pierre pour cette dégeekalisation.
Raccourci.
Assez raccourci. C'était donc le 230e numéro de l'Écho des Gnous. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 12 décembre, un des derniers numéros de l'année pour l'Écho des Gnous 231, à partir de 19h comme d'habitude. Peut-être y aura des libristes au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, mardi.
Pas sûr, j'ai pas vu d'annonce. Hein.
Il y aura peut-être des gens qui seront
peut-être.
Là. En tout cas, on se retrouve avec Chupa Pimento tout de suite et on vous souhaite une très bonne fin de week-end.
Ciao, ciao.
Au revoir à tous.
Bye bye.
Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'Écho des Gnous.